Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant.
Autour de moi ce soir, Lily Bloom, Jean-Christophe Brianchon et Philippe Chevillé pour cette dispute théâtre. À notre affiche, trois spectacles, Marie Said, What She Said, un spectacle de Bob Wilson avec Isabelle Huppert au Théâtre de la Ville, Espace Cardin jusqu'au 6 juillet, Cataract Valley de Marie Raymond et Thomas Kiardet après Jane Bowles au Théâtre de l'Othéon, Atelier Berthier, ça c'est jusqu'au 15 juin, et puis Vue Lumière, un projet d'Isabelle Lafont au Théâtre de la Colline jusqu'au 5 juin prochain. Il y aura bien sûr un coup de cœur, ce sera celui de Jean-Christophe Brianchon qui nous emmènera à New York dans un spectacle immersif Sleep No More. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau spectacle de Bob Wilson, un habitué du Théâtre de la Ville et de l'Espace Cardin en particulier, à deux pas de la Place de la Concorde, où il retrouve Isabelle Huppert, quasi seule en scène, dans un spectacle intitulé « Marie said what she said », « Marie a dit ce qu'elle a dit ». Alors la Marie en question, c'est Marie Stuart, née en 1542, sacrée reine d'Écosse à 6 ans. Elle grandit en France, rentre en Écosse, se marie deux fois, fuit sous la pression de seigneurs protestants, cherche refuge à Londres auprès de la reine Elisabeth Tudor, qui la déteste et l'accuse d'avoir tenté de l'assassiner avant de finalement la condamner à mort. Alors un petit tour d'abord pour savoir en quelques mots ce qu'était votre état d'esprit à la sortie du spectacle. Alors Lily Bloom, vous êtes excusée, vous étiez à Cannes, vous n'avez pas pu voir le spectacle, mais Jean-Christophe Brianchon.
Oui, je l'ai vu et je suis content de l'avoir vu puisque contrairement à l'habitude, j'ai trouvé ici que Bob Wilson alliait avec grand talent la chair et l'esprit.
Philippe Chevillet.
Moi, j'y ai vu un beau requiem royal, éthéré et acrobatique.
Bon, ça promet.
Sire, bon roi de France, par ma cousine reine d'Angleterre, après 20 ans, je suis enfin condamné à mort. Je souhaite qu'après ma mort, mon corps soit transporté dans votre royaume, où j'ai eu l'honneur d'être reine de France. Je dois être exécutée demain en tant que criminelle à 8 heures du matin. Je n'ai pas eu le temps de vous révéler pleinement tout ce qui s'est passé. Mais s'il vous plaît d'entendre mes servants, dont le cœur est brisé, vous entendrez la vérité. Que Dieu soit loué, je méprise la mort. Et c'est en bonne foi que j'affirme mourir, innocente de tout crime. Je ne reconnais aucun procès ni jury dans ce royaume dont je suis héritière. La religion catholique et le maintien du droit à la couronne que m'a donné Dieu sont les deux raisons de ma condamnation. Et pourtant, ils ne me permettront pas de dire que c'est pour la religion catholique que je meurs, car ils craignent un changement pour la leur. Ils ont été très insistants pour que je reçoive la doctrine de leur ministre appelé à cette fin. Les porteurs de cette lettre témoigneront de ma conduite dans cette dernière action. Il me reste à vous conjurer. Mon vieil allié qui m'avait toujours affirmé votre affection, de m'en donner la preuve à cette heure. Récompensez mes serviteurs au cœur brisé selon leur état. Priez pour une reine qu'on a appelée très chrétienne et qui meurt catholique et privée de tous ses biens. Quant à mon fils, je le recommande à vous selon ses mérites, car je ne peux pas répondre de lui.
C'est un texte qui est signé Darine Pickney, qui a l'habitude de travailler avec Bob Wilson. Philippe Chevillé, peut-être vous pouvez nous dire dans un premier temps à quoi il ressemble ce texte dans la bouche d'Isabelle Huppert qu'on entendait à l'instant.
Alors moi, c'est d'ailleurs pour moi une des réserves que je ferai sur le spectacle, bien que Daryl Pinkney ait fait de très bonnes adaptations à Orlando, au Time Rocker, The Old Woman, là je trouve que c'est un peu limite son adaptation. Alors il y a une belle écriture, hein, une belle écriture nerveuse. Là ce qu'on a entendu c'est un peu particulier puisque c'est la lettre au roi de France, donc c'est tout à fait, on comprend tout ce qui se dit. Le reste est un peu plus éclaté, un peu incantatoire, on a des répétitions. Il y a des fulgurances, mais je trouve quand même que globalement, si on n'a pas révisé sur Reine d'Écosse, c'est un peu hermétique, voire fumeux. Alors, on est en 1587, la veille de son exécution. Il y a un peu trois parties. La partie la plus forte, c'est celle du milieu, là où elle est vraiment à deux doigts d'être exécutée. Alors, avec beaucoup de concentration, quand même, on saisit l'essentiel, c'est-à-dire l'enfance à la cour de France. Bon, vous l'avez évoqué au départ, les trois maris et les trois maris, c'est-à-dire les trois maris, les trois époux, et puis les trois suivantes qui s'appellent Marie. Les meurtres et trahisons, les rivalités avec la reine d'Angleterre, sa passion pour les petits animaux. Et à travers le texte, quand même, ce qui ressort, c'est cette solitude, cette grande solitude des reines, plus que les rois peut-être, et cette grande fragilité de cette femme brisée. Alors, il faut dire qu'en plus, bon, le côté assez découpé du texte est accentué évidemment par la direction de Bob Wilson, qui par moment il la met presque à la torture. Je sais, et un passage par exemple où elle doit répéter très vite une phrase qui est imprononçable. Donc on a l'impression qu'on est un peu dans un cours d'art dramatique et que on vérifie si Madame Huppert est toujours.
C'est presque les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles
sèches. Exactement, ouais. Exactement, c'est ça. Et elle doit composer avec évidemment ce texte répétitif, avec des voix off et avec des rythmes différents et en plus avec une musique de d'Einaudi qui porte la partition. Elle peut pas se permettre de rater le rythme, donc c'est vraiment acrobatique et c'est pour ça que dans les premiers soirs, je pense qu'elle n'était pas tout à fait prête et que je pense que ça va progresser.
Non, on va y revenir au jeu d'Isabelle Huppert. Peut-être Jean-Christophe Brianchon, vous pouvez nous décrire à quoi ressemble l'espace de jeu dans lequel elle évolue sur scène.
Oui, bien Philippe parlait de The Old Woman et je pense que pour ceux qui l'ont vu, c'est un petit peu comparable, bien que ce ne soit pas du tout la même ambiance. Concrètement, Isabelle Huppert est seule sur un plateau noir, simplement encadré à l'avant et à l'arrière scène de néons blancs. Et au fond de cette même scène noire se trouve l'habituel, en tout cas désormais habituel, cadre blanc sur lequel sont projetées ces lumières, sorte de camaïeu de bleu propre au travail de Bob Wilson. Donc voilà, Isabelle Huppert est seule sur ce plateau sombre. On pourrait dire aussi que sa robe, d'une certaine manière, le plateau étant si nu, sa robe constitue elle-même une partie du dispositif, qui est une robe qui reprend les codes des costumes royaux du XVIe siècle, qui est un petit peu modernisée, on l'imagine. Donc voilà, pour faire simple, ça se passe comme ça. Au fil de la représentation, quelques petits éléments vont venir s'ajouter, mais voilà, que je laisse le plaisir aux spectateurs de découvrir.
Philippe Chevillier, vous émettiez quelques réserves sur Isabelle Huppert, mais vous aimez quand même ce spectacle. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qui a conduit votre enthousiasme?
Alors d'abord, il y a l'esthétique qui est vraiment, vous venez d'en parler, mais cet élément très puissant de ce vélum en fond de scène éclairé, c'est toujours très beau. Là effectivement il y a une lumière qui est plus une lumière éthérée, on est un peu dans les couleurs nacrées aussi, et à quelques moments ça bascule la scène devient sombre, et à ce moment-là on a quelques aplats de brun qui correspondent d'ailleurs au brun de la robe et qui sont très beaux. Donc il y a cette esthétique, il y a cette gestuelle aussi, parce que ce qui est difficile pour Isabelle Huppert, c'est qu'il y a aussi comme toujours chez Bob Wilson, une gestuelle. Et là, en fait, il prend comme point de départ cette danse de cour, ces moments qui étaient agréables à la cour de France et qui devient à la fin une danse de mort et une course vers la mort. Et c'est une gestuelle qui est faite de révérences et de révérences de danse qui vont de plus en plus vite, de plus en plus frénétiques, d'avant en arrière. Il y a un mouvement, bon, j'en dis peut-être un peu trop pour le futur spectateur, mais c'est vrai que ce moment-là, pour moi, c'est un moment très fort et ça marche très bien avec le texte. Donc les réserves que je fais sur la compréhension du texte, c'est quand même une atmosphère et pendant une heure vingt, ça dure à peu près, on est quand même porté par cette tragédie qui reste toujours chez Bob Wilson très abstraite, mais effectivement qui a un petit côté quand même qui procure une émotion, l'émotion de la mort qui va arriver, l'émotion de cette solitude quand on voit apparaître tout d'un coup. En plus, au début, elle est dans l'ombre et puis on la voit apparaître plein feu tout d'un coup. On dirait qu'elle sort d'un tableau d'époque. C'est quand même très beau et simplement c'est peut-être un peu ce que je reprocherais. C'est un peu de l'art pour l'art. C'est-à-dire que même s'il y a un peu d'émotion, on est quand même dans la très belle performance plastique, esthétique, et je suis un peu frustré quand même d'émotion au bout du compte.
Voilà. Jean-Christophe Brianchon.
Moi, je suis pas tout à fait, voire pas du tout, d'accord avec Philippe en ce qui concerne l'émotion et le fait que cette pièce verse dans ce qu'il appelle l'art pour l'art. Moi, j'ai au contraire vu pour une fois chez Bob Wilson un peu de chair et un peu de sentiment, ce qui me manquait beaucoup chez lui, puisque aussi grand puisse-t-il être, c'est un metteur en scène à côté duquel je suis toujours passé. C'est entre autres du fait de cette absence d'émotion. Ici, l'émotion est là effectivement par le texte que personnellement j'ai trouvé très beau, même si effectivement un petit peu abscon et par instant, mais ça ne lui nuit pas pour autant. Ce texte est très beau et très bien amené par Isabelle Huppert. En dehors de ça, on retrouve ici certaines choses de Bob Wilson qui me plaisaient, mais qui auparavant étaient embrouillées par d'autres choses qui me plaisaient moins. Entre autres, Philippe parlait de la gestuelle, cette gestuelle d'Isabelle Huppert de l'avant vers l'arrière scène, qui est exactement la même finalement que celle de Lucine Giles en ouverture de d'Einstein on the Beach, qui était pour moi un moment très très fort de ce spectacle, qui visuellement on ne saurait dire exactement pourquoi, mais cette avancée et ce recul sur le plateau sur ce texte là crée quelque chose. Donc on retrouve ici certains des mécanismes habituels de Bob Wilson, mais déshabillé du gras qui parfois les m'ennuyait, entre autres cette direction d'acteur, parfois un peu, même, c'est pas parfois, c'est totalement grimacière, qui ici est entièrement déshabillée. Le visage d'Isabelle Huppert est blanc et quasiment macabre. La grossièreté de la grimace laisse place au vide de l'effroi de cette femme qui va mourir. Et on se retrouve vraiment à l'os de cette vie, à l'os de ce jeu, et peut-être à l'os du théâtre de Bob Wilson, ce qui m'a particulièrement touché.
Oui, moi j'ai trouvé aussi qu'il y avait plus de chair dans ce spectacle-là de Bob Wilson, et je me suis demandé si ça tenait pas paradoxalement au raté, c'est-à-dire au fait que, en effet, je pense qu'Isabelle Huppert est très en danger sur cette scène où elle est seule, où elle reproduit en effet des mouvements chorégraphiques qui sont habituellement reproduits chez Bob Wilson par des danseurs, des danseuses, des gens qui ont un corps différent du sien, en tout cas plus sportif, enfin très simplement je pense. Et là, elle se met vraiment en danger, on l'entend, elle s'essouffle, les grimaces, elle ne les reproduit jamais exactement de la même manière. Ces fameuses diagonales de Lucinda Childs dans Einstein on the Beach, elles sont pas exactement, elles sont pas parfaites.
Elles
on sent qu'elles
exécutées.
Elles se plantent sur les diagonales, clairement. Et ça donne à la fois quelque chose de très fragile et peut-être une valeur particulière à ce spectacle de Bob Wilson, Philippe Chevillet.
Oui, je pense aussi que Bob Wilson le dit, là, il y a vraiment une rencontre avec Isabelle Huppert. Alors c'est amusant parce que moi, dans ma tête, c'était assez récent. En fait, c'est quand même
Quartet,
c'est 2006 et Orlando, 1993. Et la retrouver là, c'est vrai que c'est quand même une comédienne exceptionnelle. Et même si je pense qu'elle, bon, elle n'est pas prête, enfin, elle n'est pas encore prête, je pense que ce qu'elle apporte, c'est. Elle arrive totalement à se fondre dans cette mécanique. Dans ce rituel de Bob Wilson, et à y apporter évidemment du jeu et de la chair et du sentiment. Donc moi je faisais des petites réserves, mais je pense qu'il faut effectivement se replacer dans un contexte plus global. C'est quand même un spectacle qui m'a ébloui, et d'autant que comme on est dans le dépouillement, on pourrait se dire Bob Wilson nous livre deux trois petits trucs qu'il sait faire. On parlait justement du vélum éclairé, etc. Mais je trouve que justement il renouvelle quand même les codes à travers des choses qu'on connaît. Donc je disais, c'est des réserves assez légères, parce qu'au bout du compte, je pense que ce spectacle, moi je l'ai senti, je me dis que dans 15 jours ça va être magnifique.
Jean-Christophe Brianchon. Alors,
j'espère pour autant que dans 15 jours, comme vous le disiez Lucille, que le spectacle ne sera pas devenu parfait comme nous en a donné l'habitude ce metteur en scène. J'espère que Isabelle Huppert continuera à trébucher, continuera à être essoufflée, continuera à exécuter ses mouvements de manière un petit peu aléatoire. C'est effectivement ce qui, selon moi, a donné le sel à cette mise en scène de Bob Wilson, mais aussi au jeu d'Isabelle Huppert qui, parfois, peut être, tout comme Bob Wilson, un petit peu froide et sèche sur scène. Bien qu'elle soit selon moi une une immense comédienne de théâtre. Ici, justement, elle se trompe et ça la transforme de sa posture habituelle de Berma proustienne qu'on viendrait tous voir un petit peu de manière bourgeoise et voir à la fois circassienne, un peu voir la bête sur scène comme ça. Là, elle descend un peu de son piédestal. On voit l'actrice effectivement flancher, jouer, essayer de nous séduire. Pour une fois, elle est dans un rôle de séduction et ça fait du bien. Ça fait du bien des deux côtés, aussi bien de voir ce metteur en scène Trébuchet que cette actrice Trébuchet.
Alors on a à peine effleuré la question de la musique, elle est importante, elle est omniprésente, bon là encore comme souvent chez Bob Wilson, signé Ludovico Einaudi qui est un compositeur italien extrêmement... qui a un succès énorme dont la musique irrigue toutes les bandes annonces de cinéma, la publicité. Moi, elle m'a beaucoup gênée, cette musique-là. Je la trouve, elle prend beaucoup, beaucoup par les sentiments, notamment au début. C'est un air qu'on connaît parce qu'on l'a entendu dans un nombre de pubs et de clips assez hallucinants. Philippe Chevillier, vous avez aucune réserve sur ce traitement musical? On est quand même loin de ce que faisait Bob Wilson il y a 40 ans, là, pour le coup.
Moi, en plus, j'ai vu le livre de la jungle avec la musique de Coco Rosi. On ne sait pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, on y voit aussi, et ce qui est formidable, parce que c'est avec des jeunes, petite parenthèse, des jeunes comédiens, et du coup, là, il y a le cadre, il n'a pas pu leur imposer trop, donc sa vie, c'est un spectacle qui vit. Et là, la musique, m'a plutôt gêné, oui. Puis après, je pense que le côté répétitif et un peu une forme d'autodérision, j'ai trouvé dans la musique, fait que ça passe et que ça fait partie du... ça devient presque une musique menaçante d'une certaine façon, ou un détournement d'une musique royale. Donc après, j'ai eu un temps d'adaptation. D'autant que c'est, d'un point de vue du son, c'était pas parfait et que tout se mélangeait un petit peu, les voix et la musique.
Oui, au début, moi j'y étais jeudi dernier, c'était un petit peu compliqué. Jean-Christophe Briançon.
Oui, en ouverture, j'ai eu peur aussi. Ça donne, il y a un côté pompier, quoi. Ça ouvre et puis bam, le sentiment dégouline sur ce plateau. Bon, je me suis dit, merde, où on est? Enfin, on est plus chez Bob Wilson, quoi. Et en fait, bon, à la rigueur, pourquoi pas? Mais au fil de la représentation et de la partition, les choses s'affinent, la musique devient un petit peu plus complexe et donc un petit peu plus intéressante. Après, comme toujours, moi je suis pas du tout un spécialiste de musique, donc pour ce qui est de vraiment la lecture de ce que pourrait être cette partition, je n'ai absolument rien à dire. Mais en revanche, théâtralement, ça me pose toujours problème. Je me demande toujours à quoi sert la musique. Est-ce qu'elle crée elle-même le sentiment, ou est-ce qu'elle en est simplement le support? Ici, malheureusement, j'ai peur qu'elle crée le sentiment, un sentiment qui sans elle n'existerait peut-être pas sur cette pièce. Et là, ça pose question.
Alors en conclusion, je me suis aussi posé la question, moi qui ai vu peu de mise en scène de Bob Wilson et pour qui le travail est récent, comment on voit Bob Wilson aujourd'hui quand on ne connaît rien de son travail, alors qu'il fait toujours un petit peu la même chose et que cette grammaire-là, elle s'ancre dans une histoire du théâtre qui a été reprise maintenant par Romeo Castellucci dans ce qu'il fait de plus visuel, par Julien Gosselin aussi, j'ai pensé dans la manière dont le texte est dit, dans les crescendo, la manière dont il est déclamé. Qu'est-ce qu'on perçoit de l'actualité ou au contraire de l'inactualité, à votre avis, Philippe Chevillier, de son travail aujourd'hui à Bob Wilson?
C'est assez contradictoire parce que là, on voit un spectacle qui est plutôt dans le... On pourrait dire que c'est la quintessence, une sobriété, un dépouillement, qu'il y a quand même une forme de répétition, qu'il assume ce côté plastique, cette gestuelle inspirée du no, de la danse contemporaine, enfin tout ce qu'on connaît, mais bon, d'une façon épurée. Donc on se dit c'est une épure et on accepte cette signature. Et encore une fois, je parlais du livre de la jungle ou des comédies musicales où on se dit là, il a envie de s'amuser un peu, il met beaucoup plus de couleurs, il laisse un peu plus de liberté, et c'est un grand gamin, donc sans révolutionner ce qu'il est, parce que je crois qu'il a encore une fois un vocabulaire qui peut pas renouveler. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est lorsque on avait vu Peter Pan au théâtre de la Ville, il y avait beaucoup de jeunes twittos qui avaient assisté pour la première fois au spectacle de Bob Wilson et qui trouvaient ça bon, génial, nouveau. Donc je pense que ça vieillit pas tant que ça, alors qu'il y a cette tradition, notamment dans les milieux d'opéra, de dire « Oh, Bob Wilson est fini depuis Le Regard du Sourd, quasiment. »
C'est quasiment sa première, 71.
Moi, je trouve que il vieillit bien, sans se révolutionner, mais que ça reste dans l'air du temps et un peu en marge aussi de beaucoup de choses.
Lily Bloom, on peut vous entendre peut-être là-dessus. Il peut continuer comme ça, à faire tout le temps la même chose, Bob Wilson, selon vous?
Oui, ben je pense. Après, il y a toujours un lot de spectateurs et de nouvelles générations qui peut redécouvrir avec des yeux neufs. Et moi, ça m'intéresserait de voir. Je me suis souvent posé la question. En fait, par exemple, j'avais le même questionnement avec Jean-Michel Rabeu, qui m'avait ébloui il y a 15 ans. Et puis, d'un seul coup, quand je le revois maintenant, je vois tous les motifs qui se répètent inlassablement. Je sais pas. J'ai pas la réponse en fait à cela.
On est peut-être déjà trop vieux, Jean-Christophe.
Non, mais voilà, c'est juste qu'il faut oui, bien sûr apprendre à renouveler son émerveillement face au metteur en scène. Je ne sais pas si c'est forcément à eux de s'adapter à notre regard.
Moi, je pense en l'occurrence qu'il a créé un système qui nous permet, qui permet à chacune de ces pièces d'être toujours actuelle, puisque c'est comme un monochrome de Klein, quoi. De toute façon, ça sera jamais vieux, un monochrome de Klein. Bon, bah là, c'est pareil. Il y a quelque chose de l'ordre du système qui fait que, de toute façon, en fonction du texte et de son inspiration du moment et du temps dans lequel s'inscrit cette pièce, ça pourra toujours résonner. Ici, en l'occurrence, au-delà du système, je trouve que cette pièce parle évidemment de manière peut-être un peu grossière, mais de toute façon de la situation d'une femme, de cette femme qui nous dit, qui nous pose la question frontalement de savoir ce que ça aurait été si elle avait été un homme, et qui finit le spectacle par cette phrase en disant « je ne mourrai pas de toute façon ». Donc, de toute façon, là aussi, nous, on se retrouve confrontés à une pièce qui nous amène à aujourd'hui, que, peu importe que ça existe depuis 74 ou non.
C'est probablement d'ailleurs un premier Bob Wilson, un bon premier Bob Wilson, pour ceux qui ne connaissent pas.
Tout à fait.
Mary Said What She Said, donc spectacle de Bob Wilson avec Isabelle Huppert, c'est jusqu'au 6 juillet prochain au Théâtre de la Ville, espace Cardin. À suivre dans la dispute Cataract Valley de Marie Raymond et Thomas Quillardet d'après Jane Bowles, Vue Lumière, un projet d'Isabelle Lafont au Théâtre de la Colline, et le coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour Sleep No More.
France Culture. La dispute.
Et nous poursuivons cette dispute avec Cataract Valley, d'après l'écrivaine américaine Jane Bowles, un projet de Marie Raymond, assisté de Thomas Quillardet. Alors on a parlé il y a peu de la comédienne et metteuse en scène Marie Raymond pour son spectacle sur Fellini à la Comédie Française. Cette fois-ci, ça se passe à l'Odéon Atelier Berthier. Et la matière est une nouvelle de Jane Bowles, l'histoire de trois sœurs. L'une, Harriet, est depuis plusieurs semaines partie soigner ses nerfs à Caen Cataract, milieu touristique mi-sanatorium, où elle se promène, fait des exercices d'imagination et du canoë. L'autre, Sadie, est restée avec la troisième et son grossier mari en ville, dans l'appartement familial, où elle vaque à ses affaires domestiques, jusqu'à ce qu'elle décide d'aller voir, elle aussi, à quoi ressemble ce lieu où sa sœur trouve régulièrement refuge. On va entendre un extrait dans quelques instants, mais d'abord un petit tour de vos impressions, Lily Bloom.
J'ai trouvé que c'était une belle expérience sensorielle et une réflexion sur le féminin et le féminisme qui m'a interpellée.
Jean-Christophe Brianchon.
Alors on va pas être d'accord, parce que pour moi ça a été d'un ennui profond, et c'est un théâtre qui pour moi manque terriblement de théâtre.
Philippe Chevillet.
Ah, moi je trouve que c'était une drôle de randonnée onirique sur le fil des sentiments et de la folie.
Périne, penses-tu que l'ambiance de Caen Cataract fait penser à celle des bas-fonds ?
Ah ça non.
Bah non, c'est évidemment l'endroit le plus éloigné des bas-fonds qu'on puisse imaginer.
Oui.
Ainsi, j'ai formé mon projet. C'est assez complexe. Et de mon point de vue, c'est assez brillant. Je compte venir ici plusieurs années de suite. Combien je ne suis pas encore sûre, mais en tout cas suffisamment pour que cela puisse passer pour des racines. Tu vois, je veux dire, enfin, les racines naturelles de la famille, les racines de l'enfance. Assez longtemps pour que je puisse me dire qu'en cataract, bien, c'est l'habitude. C'est la vie. Et non l'évasion. Parce que l'habitude, c'est convenable, et l'évasion, ça ne l'est pas. Et en m'éloignant peu à peu du cercle familial pour établir des liens de plus en plus solides ici, à Caen Cataract, je pourrais, par la suite, faire des petites incursions dans le monde extérieur, mais elles passeront pratiquement inaperçues.
Bon, désolé pour cette captation qui est mauvaise et qui en plus ne fait pas du tout justice au travail sur le son dont on parlera probablement parce que c'est un travail intéressant. Alors Philippe Chevillier, d'abord, à quoi ressemble la scène quand on entre dans cette petite salle hein, des ateliers Berthier?
Ah ben d'abord, c'est pas du Bob Wilson.
Non, certes.
Donc, on a une reproduction du Cataract Camp, essentiellement. Donc on voit des pins dans le clair-obscur sur scène.
On les sent même.
On les sent, oui. Un intérieur de chalet découpé côté jardin, du mystère au lointain. La cataracte, elle va se déchaîner, mais quand seulement la lumière va tomber. Et au milieu coule une rivière, mais on ne la voit pas pour l'instant. Donc c'est un petit coin de nature qui est à la fois bien ordonné, entre parc naturel et parc de loisirs, à la fois kitsch et mystérieux. Et finalement, je trouve que ça donne bien le ton d'emblée de ce spectacle sur le fil, puisque on flotte toujours entre un peu le mélodrame réaliste, la comédie grinçante, et cet univers kitsch est assez... Mais onirique en même temps, assez joli et kitsch, c'est assez troublant dès le démarrage.
C'est un univers très singulier, moi je ne connaissais pas du tout cette Jane Bowles, donc, qui a écrit la nouvelle Quand cataracte, Lily Bloom. Qui est Jane Bowles?
Jane Bowles, oui, effectivement, c'est un écrivain très méconnu, et c'est une pionnière aussi discrète, elle fait partie de ces femmes d'eux qui doutaient beaucoup, déchiraient ce qu'elles écrivaient, je crois qu'elle a seulement édité 3 livres à elle de son vivant, elle a eu des accueils critiques terribles, mais elle avait voilà quelques personnes comme Truman Capote ou Tennessee Williams qui croyaient follement en son travail.
Ouais, on est dans les années 40-50. Oui. Hein,
elle est née en 1917, donc oui, c'est par là. Et elle, ce qui est beau, c'est qu'elle elle parle très bien de tempêtes intérieures, invisibles, discrètes, de tourments et qui jaillissent seulement par quelques phrases ébauchées, de grands silences. Et je trouve que, alors, ce qui est étonnant, c'est que Marie Raymond, ça m'étonne pas qu'elle ait choisi cette pièce et cet auteur, parce qu'elle est elle-même, alors je sais pas si on peut dire ça, mais une héroïne, Jane Bowlesienne, je sais pas comment on pourrait dire ça. Elle porte dans son regard comme ça un trouble. Elle porte tous les tourments du monde tout en restant d'une naïveté totale. Elle porte totalement cet univers-là et la pièce lui ressemble. On la reconnaît dans ces deux femmes-là, et en tant qu'actrice et en tant que metteuse en scène.
Il faut dire qu'elle est sur scène aussi. Elle interprète
la sœur Harriet. Harriet, celle qui a besoin d'être dans ce sanatorium, retrouver l'enfance, la protection de la cabane. Et je trouve voilà que dans sa mise en scène, a réussi à capter l'essence du travail de Jane Bowles.
Alors Jean-Christophe Briançon, lâchez toute votre hargne sur ces pauvres femmes.
Non, de hargne surtout pas, parce que en plus j'aime et admire énormément Marie Raymond, qui malheureusement m'a déjà déçu à la Comédie Française cette année.
Oui, on en avait parlé.
Mais bon, qui par le passé, en tout cas, m'a vraiment ébloui. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, et c'est pas le cas pour plusieurs raisons. Effectivement, je pense, comme vous le dites, que Marie Raymond correspond tout à fait à ce texte. Il y a un côté chez elle, lapin coincé dans les phares d'une voiture, quoi. C'est cette espèce d'effroi qu'elle a dans les yeux et à la fois de posture parfois très enfantine la mettent tout à fait dans cette capacité d'interpréter la tempête intérieure qui est censée nous faire vivre ce texte. Malheureusement, pour moi, le problème se situe réellement au niveau théâtral et non pas textuel, puisque je suis certain que ce texte pourrait m'intéresser, mais sur le plan théâtral, bien qu'il s'agisse de parti pris, je trouve que la mise en scène n'est absolument pas, ne nous permet pas d'entrer dans cet univers et dans cette tempête intérieure qui est celle du personnage qu'interprète Marie Raymond. L'espace est selon moi très mal occupé, même si encore une fois je suis absolument certain qu'il s'agit d'un parti pris, puisque la majorité de ce qui se passe à jardin et le reste de l'espace n'est quasiment pas occupé, plongé dans le noir, sauf à quelques instants de la pièce, sans qu'il ne soit jamais pour autant totalement éclairé. Ce sera toujours dans une sorte de pénombre qu'on avance, et cet espace donc ne participe pas, ne nous permet pas d'entrer dans le jeu, puisqu'on est enfermé dans cette espèce de cabane qui constitue à la fois un espace purement dramatique, tel qu'il pourrait être, voilà, c'est un espace physique, un espace temps, etc. Bon, le triptyque théâtral classique, sauf que là, les choses sont censées être, on va dire, transgressées, puisque cet espace de la cabane sera utilisé un petit peu de manière aléatoire, les cloisons seront tantôt considérés, tantôt non considérés. Donc bon, l'espace est à la fois transgressé et en même temps toujours ramené à cet endroit-là, au cœur de cette cabane, sans que jamais il n'éclate et ne puisse aller jusqu'à la nature, la montagne, jusqu'à l'effroi qui l'occupe, elle, et donc nous enferme dans un petit endroit un peu exigu, un peu kitsch, qui finalement ne m'a jamais permis de ressentir ce qui se passait.
Philippe Chevillé, sur l'espace, vous vous sentiez enfermé ?
Non, moi je pense que justement Jean-Christophe a été finalement saisi par le texte et l'enfermement du personnage, parce que moi j'ai pas vu autant dans ce chalet que ça. Il y a pas mal de scènes qui se passent et au-dessus de la rivière, et ensuite au moment donné il y a un moment assez fascinant dans la pièce où quand la sœur est arrivée et se retrouve à discuter dans la boutique souvenir avec l'Indien, qui n'est pas un Indien, elle s'aperçoit parce que sa main n'a pas été peinte, et elle est complètement terrifiée, elle a honte pour lui, et il y a des scènes entre les deux sœurs qui se trouvent côté cour avec dans les pins. Moi je trouve que il est utilisé de façon bizarre, mais faut se souvenir qu'on est dans un univers assez factice, que cet échappatoire que représente Cataract Valley, ce Cataract Camp ou Camp Cataract, en fait est comme un parc de Disney, et qu'elle essaye de faire un voyage, de s'échapper. Donc là, le personnage principal que joue Marie Raymond, Ariette, cherche à calmer ses nerfs en allant là-bas, et tout est factice, et ce côté toujours on oscille entre encore une fois entre un univers assez kitsch, assez faux, et puis tout d'un coup cette vérité des sentiments qui s'expriment, et cette détresse, on est sans arrêt en train de basculer, on a l'impression qu'elles vont tomber dans la rivière. Je trouve que moi ça ressort assez bien, sans que ça soit, je peux pas dire que j'ai été saisi d'une émotion constante, mais je trouve que c'est assez bien, on ressent assez bien cet univers de Jane Bowles qui est entre deux eaux comme ça.
Oui, moi je peux dire que j'ai été saisie d'une constante émotion. J'ai beaucoup aimé ce spectacle, que j'ai vraiment trouvé magnifique. Et l'espace, pour moi, c'est vraiment un espace, vous voyez, un espace totalement mental en fait. C'est à la fois l'espace à l'intérieur de la tête de Ariette, dont on pense qu'elle est l'héroïne et qu'elle est la fragile parmi les deux. Et puis après, c'est celui de Sadie. De ce point de vue, le travail sur le son, peut-être Lily Bloom, vous pouvez nous en dire un mot, est absolument magnifique.
Il est magnifique parce qu'on entre dans le spectacle, dans le noir, et on entend tout d'abord un bruit fracassant de cascade qui fait référence au flot d'émotions incontrôlées, dangereuses des personnages. Et on rentre, moi j'ai trouvé ça bouleversant d'arriver par ce son-là. Et effectivement, j'ai pas été gênée par la non-occupation de cette forêt, parce que c'est un personnage qui vient faire écho aussi à la dangerosité qu'elle ressente. Marie Raymond, elle dit qu'elle a monté le spectacle, alors je sais plus si je vais retrouver la phrase, à cause d'une phrase qui disait: quand Sadie arrive à Camp Cataract, il pleuvait à verse. Et c'est cette correspondance entre la forêt, les éléments, les odeurs, les pensées inavouées, les désirs à moitié compréhensibles, même des personnages qui l'intéressent là-dedans, et cette adéquation. Donc on est dans la forêt mythologique qui nous emporte, on est avec eux dans la forêt, donc moi ça ne me gêne pas qu'elle passe pas toute la mise en scène à déambuler, retrouver des espaces, les quelques excursions qu'elles font me suffisent. Et moi, ce qui est effectivement dans la dimension mentale du spectacle, ce qui m'intéresse, donc c'est ce double, ces deux sœurs, une qui fuit au point que toute tentative de l'autre de la rejoindre, donc cette femme qui veut vivre presque à l'état sauvage, hors du monde domestique, donc elle fuit, la moindre lettre est une menace, et l'autre, la possibilité de perdre cette femme en elle, cette femme sauvage, elle lui rend son quotidien insupportable au point qu'elle la poursuive. Enfin, j'ai peur de dire.
Jean-Christophe Brianchon, est-ce que vous voyez du théâtre dans le jeu? Peut-être on n'a pas parlé des comédiens. Ils sont quatre, ils interprètent plusieurs personnages. Enfin, il y en a un qui interprète plusieurs personnages. Deux même.
Oui.
Non, pas, alors, non,
si,
non,
si,
pas, non,
mais si, je vois beaucoup de théâtre, justement, et peut-être trop. Et alors, c'est aussi, alors c'est une de mes contradictions, c'est que au théâtre, je n'aime pas particulièrement,
n'aime
pas particulièrement les comédiens, en tout cas, j'aime pas trop les voir, en fait. Et, c'est peut-être ce qui m'arrange chez Bob Wilson. Là, ici, on les voit, beaucoup, on les voit eux, quoi. Vraiment, on voit effectivement des comédiens qui essayent d'interpréter un rôle. Et, ils le font peut-être très bien. Je suis certainement très mauvais juge en la matière, mais personnellement, moi, ça me dérange de les voir aussi présents sur ce plateau.
Philippe Chevillier, on n'a rien compris à ce que vous avez dit. Non,
c'est, je pense que Jean-Christophe veut passer à faire l'art contemporain maintenant.
Mais oui, c'est ça. Arrêtez.
Non, mais Philippe Chevillier. Alors, il y a un jeu qui est particulier, qui est un jeu distancié. On est encore une fois, c'est comme le décor. On est un peu sur le fil et on est ça aussi parfois entre une forme de tragique et puis en même temps un peu de burlesque. Mmh. On est un peu cette chose. Il y a quand même pas mal de dérision et d'autodérision même parfois dans les personnages. C'est amusant parce qu'on a trois sœurs dans Tchekhov. Bon, et donc on parlait des deux sœurs et puis il y a la troisième qui elle est l'American Way of Life, elle reste avec son mari, elle veut pas, mais c'est peut-être la plus folle des trois finalement. Et c'est la façon dont c'est joué de façon presque comme une pantomime à ce moment-là, c'est assez intéressant. Petit reproche quand même, je pense que il y a cette volonté, mais que ça pourrait être un peu plus, le jeu pourrait être encore un petit peu plus fort dans ce domaine-là, parce que parfois c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu limite faux, alors que c'est fait exprès, mais du coup c'est très difficile à tenir cet entre-deux, et parfois c'est pas tout à fait, mais bon, ça passe quand même et on ressent ce que veut nous faire passer Marie Raymond, je pense.
Caroline Arroise, moi, m'a quand même beaucoup impressionnée, qui joue Sadi, qui a priori est un personnage extrêmement effacé au départ et qui prend une ampleur qu'on ne soupçonne pas quand on voit les premières scènes du spectacle, justement dans la manière dont elle a d'équilibrer à la fois le tragique et le comique, ce qui est simple. Mais du théâtre, Jean-Christophe Briançon, ne vous en déplaise. Lily Bloom sur les comédiens.
Oui, parce qu'elle, justement, donc Caroline, elle joue sur des temps trop longs. C'est-à-dire, elle est drôle et puis elle est drôle et elle ne parle.
Elle est décalée
et le silence dure un petit peu trop longtemps, donc il devient inquiétant et puis carrément malaisant et on a envie presque qu'elle quitte le plateau pour rejoindre. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant dans son jeu. Et elle a un arc tragique qui devient passionnant, du coup, par petites touches qu'elle apporte, je ne sais presque pas le dire. Mais, et donc voilà, elle a un jeu très très singulier qui s'accorde très bien avec la pièce, mais effectivement elle joue sur des temps, des silences trop longs.
Jean-Christophe Briançon, dernier mot.
C'est peut-être ça qui m'a dérangé aussi, c'est que cet espace de l'inquiétude et du silence n'était pas, selon moi, assez bien occupé ou assez occupé. Je trouve que, finalement, comme le disait Philippe, on marche quand même sur un fil entre l'onirisme quasiment fantastique et puis l'ultra-réalisme. Et ce petit espace qu'occupe, effectivement, Caroline Arroise, de latence, de folie, de par le silence, aurait pu être bien, bien mieux occupé et aurait dû, selon moi, occuper beaucoup plus d'espace, comme il l'a un petit peu occupé. Moi, c'est une pièce qui m'a beaucoup fait penser au Caspar Friedrich de Philippe Ken et qui était très, très similaire pour moi, mais pour moi bien mieux réussi, puisque justement il occupait réellement avec une franchise bien plus nette cet espace de l'onirisme et de l'étrangeté.
J'ai pas vu du tout d'onirisme. Philippe Chevillier, peut-être un dernier mot sur ce spectacle.
Moi j'aime bien ce petit côté petite maison dans la prairie, ou du moins dans un parc naturel, et puis qui devient de plus en plus menaçant. Et c'est vrai qu'on est à la fin, on est quand même dans le vertige de ce vide de ces femmes qui essaient de s'échapper, prêtes à tout lâcher, qui en fait et on a peur qu'elles lâchent vraiment tout. Et il y a cette menace qui gronde avec le tonnerre, avec les cataractes, et je trouve qu'on le ressent malgré quelques petits défauts de réglage et tout ça. Moi, ça m'a touché.
Moi aussi. Les Cataractes Vallées, c'est un projet de Marie Raymond et Thomas Quillardet, et c'est jusqu'au 15 juin prochain à l'Odéon Atelier Berthier. Et oui, vous n'avez pas de cœur, Jean-Christophe Briançon, mais bon, vous avez quand même un coup de cœur. Et alors vous êtes tellement chic, vous n'étiez pas à Cannes, vous étiez à New York.
Voilà, exactement. J'étais à New York et plus précisément à Chelsea, dans le quartier de Chelsea, pour revoir, à vrai dire, puisque je l'avais déjà vu il y a un an, Sleep No More, qui est un spectacle immersif qui avait été créé en 2011, qui a été créé à New York en 2011 par la compagnie Punch Drunk, mais qui est une réadaptation d'un spectacle lui-même créé à Londres en 2003. Donc c'est un projet projet assez vieux dont je vous parle, qui tourne depuis longtemps et qui est un succès vraiment notoire, puisqu'à New York tous les soirs et toute la journée se presse une queue absolument monstrueuse devant le McTrick Hotel, dans lequel on est invité à rentrer pour vivre une expérience qui se situe entre l'adaptation du Macbeth de Shakespeare et des films d'Alfred Hitchcock. Donc c'est une ambiance très très étrange. On va errer dans cet hôtel totalement libre, avec pour seule consigne simplement de ne pas parler, de ne pas prendre de photos et de porter un masque pour ne pas être reconnaissable. C'est un espace immense puisque ça fait 9000 mètres carrés, c'est sur 5 étages. Chaque étage étant consacré à une ambiance particulière. Il y a un étage qui est un hôpital psychiatrique désaffecté, un autre étage qui sera une salle de bal un peu années 30 dans lequel se passeront des choses assez étranges aussi. Puis un autre étage qui sera une forêt, un peu hantée, qu'on soupçonne d'être hantée, dans laquelle on va déambuler. On est totalement libre de faire ce qu'on veut, de fouiller dans les tiroirs, de soulever les couvertures, de regarder sous les meubles, de faire entièrement ce qu'on veut. Et au milieu de cette déambulation vont arriver des performeurs qui vont nous proposer des petites scénettes, pour être tout à fait honnête, plus ou moins réussies et intéressantes, puisque ça va de la scénette de danse assez premier degré à des scènes effectivement réellement effrayantes de personnages en train d'agoniser, en vomissant dans leur douche, entièrement nus. Bon, voilà, donc c'est des scénettes très différentes au milieu desquelles on va déambuler. C'est un spectacle que je trouve assez intéressant. Pas forcément, je dirais pas que c'est le coup de cœur, le truc qu'il faut voir en ce moment, puis ça fait 15 ans que ça tourne. Donc bon.
Et puis c'est à New York, par ailleurs.
Mais pour ceux qui sont amenés à passer à New York, c'est intéressant, puisque ça permet aussi de retracer le succès que vit aujourd'hui le théâtre immersif, entre autres à Paris, avec des projets qui s'accumulent et qui font des tabacs absolument monstrueux. Là, dernièrement, un projet qui a vendu 55 000 places en l'espace de 24 heures à Paris. Bon, il y en a plein de choses qui s'accumulent comme ça, et toutes, absolument toutes, se revendiquent du Sleep No More, de Londres, puis de New York, pour avoir commencé à penser leur projet. Donc voilà, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent au théâtre immersif, et accessoirement, ça a une ampleur bien supérieure à ce qu'on peut voir à Paris ou même ailleurs, puisque ça se passe dans 9000 mètres carrés, un immense immeuble dans lequel on va déambuler. Malheureusement, à Paris, ou heureusement, je ne sais pas, en fonction de ses goûts, on n'en est pas encore là, donc c'est une expérience assez unique.
Voilà, si comme Jean-Christophe Brianchon, parfois vous passez à New York, hein, vous pouvez aller voir Sleep No More, le spectacle immersif de la compagnie Punch Drunk. C'est donc en ce moment à New York.
France Culture, la dispute.
Et le dernier spectacle à l'affiche de la dispute, c'est Vu Lumière, un projet écrit, mis en scène et joué aussi en partie par Isabelle Lafont, qui retrouve le théâtre de la Colline après plusieurs créations ces dernières saisons. Alors je vais citer une partie de sa note d'intention, qui est aussi une note qu'elle a écrite pour le comédien et les quatre comédiennes qui l'accompagnent sur scène. Vu Lumière, c'est comme cela que l'on nomme les premiers films des Frères Lumière. La contrainte était alors l'unique possibilité d'un plan fixe de 57 secondes. Prenez votre portable, choisissez un angle, et en gardant cet angle, filmez 57 secondes. Vous verrez combien c'est long. Vous verrez aussi finalement tout ce qu'on peut observer dans ce plan fixe. Nous formulerons au fil des improvisations la question de ce qu'on doit montrer ou pas. Alors petite impression d'abord générale sur ce spectacle, Philippe Chevillier pour commencer.
Alors c'est une sympathique tentative de théâtre d'impro qui veut dire la vie et se fiche complètement sur le plateau.
Lily Bloom.
Comment dire
Lancez-vous.
Non, parce qu'en fait, je...
Non, parce qu'en fait, c'est ma voix.
C'est un personnage qui... C'est une pièce qui m'a donné envie de crier, mais quand j'essaie de le justifier, je me sens être une très mauvaise personne.
Bah, vous allez être obligé de l'être. Jean-Christophe Brianchon.
Pour moi, c'est bien plus qu'une pièce sympathique, comme le dit Philippe. C'est une pièce faussement simple, mais vraiment brillante.
Très bien.
À l'atelier, si apprendre autrement, et regardez, autrement c'est important, oui. Et votre désir,
oui,
il y a apprendre et désir et autrement, c'est ça que j'aime bien, tu vois.
Très très bien ça.
Si, l'école buissonnière vous parle, vous tente, ça c'est
bien. Alors je comprends pas pourquoi tu mets école buissonnière, parce que c'est pas une école du tout, donc il y a quelque chose qui va pas.
Si, c'est une forme d'école, mais pas académique, comme l'école où vont nos enfants. apprendre. Il y a quand même l'idée d'apprendre. Moi, j'aime bien l'école. C'est important. Oui,
c'est
quand même une notion importante.
Oui, mais alors, et puis en plus, tu vois, ça fait 6 si, donc ça fait 2 si, donc c'est pas bien pour
moi. C'est difficile hein, déjà pour moi de faire cet effort pour me mettre en groupe. Tu vois, c'est compliqué. Donc, si, à chaque fois, tu vas. Pourquoi t'as mis du rouge à lèvres
bah, parce que je suis.
Tu rouges à lèvres pour faire la fichette.
Bah, parce que je suis naturellement sexy, élégante et distinguée. Je veux dire, il y a quelque chose de, chez moi, c'est naturel.
Alors,
et pourquoi tu n'aimes pas mon rouge à lèvres?
Non, si, j'aime bien, mais bon, voilà, je me dis, voilà, est-ce que ça va apporter quelque chose, tu vois, à la fichette, c'est ça? Parce que là, il faut qu'on se concentre sur la fichette.
Oui, et pourquoi il n'y aurait pas l'idée, tu vois, qu'on veut apprendre, s'instruire? Parce que c'est ça un peu le cœur
c'est ça.
De notre histoire.
Et ben, on met, venez partager vos passions, vos envies, vos envies d'apprendre.
Oui,
d'apprendre. De nous instruire et. Entre parenthèses, je mets pas des gâteaux, tu vois. Pas
non,
des gâteaux, parce que si on vient, il y a des trucs sympas, moumou, tu vois. Moi, je veux un truc où les gens apportent de la matière, pas là, tu vois. Pas une réunion de. Voilà, de pacotille, quoi. Je veux
non, pas... genre, je sais pas de la pacotille, c'est quoi ce mot d'abord? Tu le sors du Moyen-Âge ou quoi? Je veux dire, c'est pas de la pacotille, juste, si tu veux, dans un centre social, c'est convivial. Les gens, ils apportent des gâteaux, donc c'est un peu comme si tu leur donnais une petite claque, tu vois.
Non, mais c'est pas ça, je veux que ce soit chaleureux, mais dans la pensée, pas dans les faits, pas dans
les choses. Oui, genre, le gâteau, ça fait partie de nos coutumes aussi. Moi, j'ai toujours apporté des gâteaux à tous les ateliers.
Voilà un extrait de Vue Lumière. Alors Jean-Christophe Brianchon, j'ai donné une explication pour ce titre, mais je n'ai rien dit de ce que dit la pièce et de fait je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qui se raconte dans ce spectacle ?
Alors, ce qui se raconte, c'est assez simple et en fin de compte, ça a assez peu à voir avec la note d'intention, puisqu'il s'agit très simplement de la création, puis du quotidien et de l'éventuelle dissolution d'un ciné-club dans un centre social qu'on imagine être en banlieue parisienne avec dans le 20e, oui, d'accord, alors ça m'avait échappé. Voilà, avec cinq comédiens sur le plateau, et voilà, on va suivre avec eux, petit à petit, à travers des improvisations, ce qu'on imagine être des improvisations, en tout cas, le quotidien de ce ciné-club, et on va aussi, avec eux, être amené à réfléchir au-delà de ce petit quotidien, à des questions bien plus grandes que ce même quotidien, de ce qui peut ou non effectivement être représenté, comme Isabelle Lafon le dit dans sa note d'intention, mais aussi la question de l'action culturelle d'une manière générale, l'accès à la culture, la démocratisation de la culture, etc. Qui sont des questions qui, selon moi, sont bien souvent très maltraitées et ici, assez bien amenées par le biais de l'improvisation, justement.
Vous allez nous en dire davantage, Lily Blum. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble l'espace de jeu? Quel type de théâtre fait Isabelle
Alors,
Lafon?
Alors, on est plateau nu. Hein, c'est vraiment un théâtre de laboratoire, un laboratoire scénique où on voit des acteurs en création perpétuelle, en mouvement. Ça a été une écriture collective et l'écriture continue au fil des représentations. D'ailleurs, moi, j'ai vu la première représentation, donc je ne sais pas où en est le spectacle. Donc, plateau nu, quelques chaises, des acteurs, aucune tentative. On dit qu'on passe d'une pièce à l'autre, d'un temps à l'autre. Il n'y a pas de volonté de démontrer quoi que ce soit. C'est une... Comment dire? Elle travaille donc sur vue-lumière, c'est le principe de ce que l'on voit, la petite fenêtre de 58 secondes que l'on voit et tout le hors-champ qu'on imagine. Là, on est dans un centre social avec des êtres qu'on imagine certainement en difficulté puisqu'ils se retrouvent là, ils ont la nécessité. Et puis, ils se retrouvent dans cet espace où ces personnes qui ne sont pas normalement, entre guillemets, autorisées à penser, vont s'autoriser à penser ensemble, à apprendre, parler de cinéma et donc questionner la relation entre art et social. Donc c'est d'une certaine façon la démocratie en marche qu'elle nous demande à avoir, à questionner. Mais je ne sais pas pourquoi, dès les premières secondes, j'ai eu une forme d'irritation, même pour le plateau nu, que je trouve maintenant devenu une convention du théâtre dit plus social, plus... Enfin, je trouve factice, en fait. Mais dès les premières secondes, après, je me suis dit que j'étais une très mauvaise personne et j'ai arrêté de le penser, mais vous voyez.
Philippe Chevillier, peut-être, vous avez l'air mitigé hein, sur ce spectacle.
Moi, je suis plus que mitigé, j'étais un peu sibyllin, là, parce que moi, j'aime bien les ovnis.
Parce que vous êtes une bonne personne.
non, mais j'aime bien les projets comme ça, généreux, de plateau. Mmh. Je pense qu'il y a du charisme d'Isabelle Lafon, on sent une sincérité incroyable et tout ça, mais je trouve ça complètement raté. C'est-à-dire que c'est pour moi les limites du théâtre de plateau. Alors, on ne parle pas du texte, mais d'une idée qui est somme toute assez vague, qui n'est pas qui a dû être travaillé beaucoup, mais qui n'est pas assez travaillé, c'est-à-dire que les personnages, parce qu'il y a des personnages, Isabelle Lafon, c'est Fantine, c'est une mécanicienne, une mécano. Il y en a une qui est ouvrière paysagiste, l'autre qui travaille à la poste, Caryl Elgrichi, qu'on a beaucoup vu chez Jean Bellorini, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui fait une assistante maternelle immigrée à la fois iranienne et géorgienne, et puis Martin, le gardien de nuit, tous ces personnages, mais moi je n'y crois pas une seconde, ils ne sont pas incarnés. Et ensuite, on les voit discuter de cinéma. Moi je me suis dit à un moment donné, pourquoi ça marche pas? Et j'ai pensé, je me suis dit, si jamais, imaginons qu'il y ait un ciné-club qui se crée exactement cette histoire dans un centre social. On prend une caméra, on les filme, on fait un documentaire. Et ça serait bouleversant. Et quand le théâtre est plus ennuyeux que la vie, c'est que c'est raté. Voilà. Donc, je pense. Et alors, il y a une autre chose. Mais bon, non, je le dirai
après. Vous allez y revenir. Ouais. En tout cas, elle revendique une forme de distance. Elle dit, je ne veux pas faire du théâtre documentaire. Bon, la parole est à la Défense. Jean-Christophe Brigonchon.
Alors, bon, on va commencer par le plus simple. Vous parlez d'ennui. Moi, très concrètement, si on parle d'expérience de spectateur, assez basiquement, j'ai éprouvé un plaisir fou à être pendant une heure et demie dans cette salle. Un plaisir fou qui était de deux ordres assez différents. Non seulement j'ai beaucoup ri, parce que malgré tout, ces personnages qui, contrairement à ce que vous dites, étaient selon moi très, très affirmés et très présents. C'est peut-être d'ailleurs éventuellement ce qui a pu à certains instants me déranger, le côté personnage caricature sociale, voilà, qui était peut-être un petit peu trop ancré. Malgré tout, ces personnages-là, créer une atmosphère, créer quelque chose qui m'a fait rire et qui m'a transporté. Par ailleurs, c'est un spectacle qui m'a aussi beaucoup plu au-delà du divertissement. Et c'est là aussi où je suis pas d'accord avec vous, Philippe, c'est que par le biais de cette écriture de plateau, elle est faite assez intelligemment pour qu'on soit complètement mis avec eux, mis de leur côté. En fin de compte, j'ai suivi exactement en même temps qu'eux le cheminement de leur pensée. J'ai jamais été déçu par leur aboutissement, par leur cheminement intellectuel. J'ai toujours suivi avec eux leur démarche et avec eux, je me suis mis à réfléchir sans que ce soit téléphoné, puisque émerge au fil des discussions et de ces improvisations des pensées, des questionnements, des choses que je n'avais pas vu venir et qui chacune dans son espace donné m'ont aidé, m'ont permis à moi aussi de réfléchir. Et voilà, de ce point de vue-là, sur le plan intellectuel aussi, ça m'a beaucoup plus.
Philippe Chevillier.
Moi, l'effet bizarre, c'est que j'ai eu l'impression, je ne l'ai pas vu le soir de la première, et j'ai eu l'impression que, c'est ce que je disais dans mon introduction préliminaire, c'est que les choses s'étaient figées, c'est-à-dire que les personnages, que l'impro était retombé, et qu'ils couraient après leur personnage, qu'ils couraient après cette histoire, et du coup la dimension sociale, oui, ben, c'est un centre social, mais moi je ne veux pas dire que je cherche le documentaire dans le théâtre, ce que je veux dire c'est que le théâtre doit donner la vie plus fort que la vie et que là justement on a l'impression qu'on est sans arrêt interpellé là-dessus en disant là on est en train de vous essayer de vous montrer une histoire, une vie, de la vivre, de l'incarner, et je me disais non, c'est pour ça que je disais documentaire, parce que je pense qu'à justement un documentaire avec ce qu'il peut avoir de froid donnerait plus d'émotion que ce que je voyais sur scène. Voilà, comme ça, c'est comme ça que j'ai ressenti.
Lily Bloom, je vous voyais acquiescer sur la question de l'improvisation et de l'incarnation.
Oui, parce que alors moi j'ai trouvé les comédiens et les comédiennes exceptionnels. C'est un de mes plaisirs de spectacle, ça a été de les voir évoluer et voilà. Mais je m'interrogeais sur la question presque de l'obscénité quand vous parliez de documentaire. Je pense que ce qui me gêne, c'est peut-être ce qu'elle amène en plateau, c'est cette idée romantique, effectivement, qu'une femme en détresse va se mettre à parler de Kiarostami, puis un autre va parler de Jean Rouge, l'autre va... Je trouve qu'il y a une idée romantique derrière ça qui, dans le contexte actuel, social, me met mal à l'aise, en fait. Je sais pas. Et de la même façon, la relation au cinéma... Et effectivement, à la note d'intention, je ne la comprends pas bien dans le spectacle, en fait. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans le spectacle.
Philippe Chevillier, puis je vais vous redonner la parole.
Parce que, à mon avis, encore une fois, parce que moi, je veux bien qu'on démarre avec une écriture de plateau. Moi, j'aime bien, mais parce qu'on n'arrive pas à un texte, à une fable, à quelque chose de fort qui tout d'un coup nous mette dans un état comme ça d'émotion. On court après. Alors, il y a des petits moments fulgurants. Moi, j'essaie toujours de me raccrocher à des éléments. Alors, et le film à la fin qui est pas très réussi, mais c'est une histoire de petites chaises, souvenirs. ça m'a un peu touché, mais à chaque fois, ça retombait en me disant, non, là, ils sont repartis. Et alors, je me dis peut-être quand même, pour donner une note positive, puisque j'ai des amis aussi qui sont allés le voir, par exemple, le premier soir, qui ont été touchés par une certaine grâce, que peut-être que c'est le problème de ces impros qui sont peut-être pas aboutis, c'est qu'il y a certains soirs où ça retombe, et puis d'autres fois où ça marche, peut-être.
Mais il faut renouveler la dangerosité.
Jean-Christophe Briançon. Aussi.
Oui, et je voulais revenir sur ce que disait Philippe tout à l'heure sur le fait que cette pièce ne nous montre pas une vie plus forte que la vie. Et je trouve que, pour en revenir à ce que je disais à propos de Cacarac Vallée, là, c'est justement par le biais des comédiens que cette pièce permet d'être plus forte que la vie, puisque justement, on ne voit pas les comédiens, on voit que les personnages. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant de Cacarac Vallée, c'est que j'aime pas quand on voit les comédiens, j'aime quand on ne voit que les personnages et que justement, le théâtre devient plus fort que la vie, puisqu'ils interprètent quelque chose qui n'est pas la vie, qui n'est pas eux-mêmes. Ici, Isabelle Lafond est tellement, entre autres, mais c'est surtout elle qui est marquante dans cette pièce, puisqu'on l'entend et la voit beaucoup, Isabelle Lafond est tellement dans l'excès et la caricature d'un rôle qui ne peut pas exister, que justement, de fait, cette pièce devient plus forte que la vie, puisqu'on n'est plus dans la vie, on est dans un personnage qui est caricatural, on est dans une sorte de caricature sociale qui nous amène à être au-delà du réel, de toute façon.
Philippe Chevillier, un dernier mot.
Pour moi, c'est juste que justement, les personnages, à partir du moment où ils ne sont pas incarnés, où on n'y croit pas, enfin, pour moi, je ne crois pas à la pièce. Voilà, je ne crois pas au spectacle.
Bon, allez vous faire votre avis sur ce spectacle qui va probablement encore évoluer, Vue Lumière, un projet d'Isabelle Lafond. C'est jusqu'au 5 juin au Théâtre de la Colline. Et avant de conclure cette émission, c'est le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin. Alors, il n'y a pas eu de jeu vendredi dernier pour cause d'émission spéciale Notre-Dame. Mais ce soir, vous pouvez gagner des invitations pour découvrir un des films de la sélection Un certain regard du Festival de Cannes, qui sera reprise du 29 mai au 4 juin. Ce sera au Reflet Médicis à Paris. Joséphine, quelle est la question ?
Quel film présenté dans la sélection Un certain regard cette année mettait en scène la première actrice transgenre de couleur à Cannes ?
Lily Bloom, vous n'avez pas le droit de répondre. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. À la prise de son, c'était Morgane Danan et à la réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de l'émission. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique. Je serai en compagnie de Sophie Rosemont, Thomas Corlin et Olivier Lam, avec sur nos platines « Cause I Love You » de Lizzo, « Reward » de Kate Lebon, « Flamagra » de Flying Lotus et le coup de cœur de Sophie Rosemont ira à l'album « California Sun » de Morrissey.